à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans LP de Nuit. LP de Nuit, c'est la référence à écouter pour être plus proche du lycée. Vous retrouverez ici nos internes et leurs chroniques pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Et n'hésitez pas à nous retrouver en ligne et sur le site de Delta FM ou sur notre page YouTube. Pour cette deuxième émission, nous allégeons un poil le studio puisque nous avons Néo à la guitare. Tu nous parles de quoi, Néo ?
Alors aujourd'hui, je vais parler donc du monde du spectacle et de l'événementiel et surtout des différents métiers présents dans ce domaine-là.
Merci beaucoup. On a aussi Gabriel et ses plans. Mais ses plans de quoi cette semaine ?
Bien, cette semaine sera les plans du château de Chambord.
Très bien, j'ai hâte de devenir une châtelaine. Et les infos culturelles de Chloé sur un thème secret, c'est ça ?
C'est ça, vous verrez tout à l'heure.
Parfait. Une pause musicale avec Marius sur une actu rap du moment un peu particulière pour toi ?
Ouais, on va parler d'un méchant rappeur qui vient d'émerger et on va vous faire écouter un petit son.
Parfait, on s'envole pour les étoiles avec Léandro. Et on atterrit sur quelle planète aujourd'hui, Léandro ?
Bonsoir. Alors ce soir, on n'atterrit pas, mais plutôt on se crache.
Ah !
Eh oui, mais j'en dis pas plus.
Ok, ça commence à me faire peur, moi, ça. Je pense que je vais arrêter ces chroniques. Et enfin, nous terminerons par notre point cœur, point love avec Ariane. Maintenant que je vous ai présenté notre équipe de chroniqueurs pro, il est l'heure de lancer le générique, maestro. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment vous allez aujourd'hui ? Ça va ? Vous êtes en forme ? On est prêts ?
Ouais, plutôt.
Tranquillement.
Tout va bien.
Carrément. Et je suis encore plus contente de vous revoir cette fois-ci parce que on est à la deuxième. Vous avez réussi à passer le cap de la première et ça veut dire que vous n'avez pas eu trop peur et que en vrai vous avez bien aimé. Et je suis d'ailleurs certaine qu'il en est de même pour nos auditeurs et pour nos auditrices. Il est d'ailleurs l'heure de monter sur scène et de taper du pied avec Néo. Néo, je te laisse le micro.
Absolument. Alors ce soir, donc, on va traiter donc, de l'ombre et des coulisses et de ce qui se passe dans le domaine du spectacle et ce qu'on voit, ou ce que l'on ne voit pas ou ce qu'on ne sait pas forcément lorsqu'on connaît assez peu le domaine du spectacle. Alors déjà, on va commencer par parler des métiers du spectacle, donc, qui englobent trois grands domaines, donc le domaine artistique, le domaine administratif et le domaine technique. Alors dans le domaine artistique, on va retrouver tout ce qui est artiste, donc qui sont les figures visibles sur scène, donc les musiciens, acteurs, danseurs, etc. Mais aussi ceux qui œuvrent en coulisses, comme les metteurs en scène, les chorégraphes ou les scénographes qui conçoivent et organisent les représentations, qu'il s'agisse de pièces de théâtre, de chorégraphie ou de décors par exemple. Ensuite, dans le domaine administratif, on va retrouver donc, ceux qui vont s'occuper d'assurer la gestion et la promotion des spectacles, donc ce qui inclut la programmation, la communication, le marketing, la billetterie, la gestion financière et tout cet aspect-là. Donc des postes comme directeur de structure, chargé de production ou chargé de communication sont essentiels pour garantir la visibilité et le bon déroulement des événements en général. Mais ces métiers-là ne sont pas forcément essentiels pour certains spectacles ou artistes qui se produisent seuls ou à leur compte. Ensuite, dans le domaine technique, qui regroupe donc les experts du son, des lumières, de la vidéo, qui sont sous la direction du directeur technique. Donc les régisseurs et techniciens spécialisés collaborent, eux, pour assurer la sécurité, le bon fonctionnement des équipements et l'installation des scènes et tous les équipements. Donc les équipes, elles incluent des régisseurs, donc comme je l'ai dit, son, lumière, vidéo, plateau, ainsi que des techniciens spécialisés, donc machinistes, électriciens, rodistes, etc., qui s'occupent de tout ce qui est scène, montage, démontage de scène et du matériel. Des différents matériels. Ensuite, pour la formation et la rémunération, il y a plusieurs manières de se former. Par exemple, par une filière générale, comme par exemple le DNMADE, donc, qui regroupe différentes formations, que ce soit en art, son, régie, etc. Ou des formations artistiques qui couvrent la musique, le théâtre ou la danse, mais qui sont assez larges. Et offre la possibilité de se former sur plusieurs domaines, contrairement aux filières spécialisées où là on va être sur un aspect plus précis dans un domaine, comme par exemple le diplôme d'études théâtrales, DET, qui est vraiment axé sur le théâtre et le théâtre en général. Et donc en termes de rémunération, c'est un peu particulier et le système est un petit peu différent selon les domaines. Par exemple, pour les artistes, donc qui vont être rémunérés au cachet, par exemple, pour chaque prestation, donc représentation, répétition, etc., avec des variations selon la notoriété et le contrat, que ce soit annuel, mensuel, ou les entreprises qui vont les engager. Les techniciens et régisseurs, eux, souvent, ils sont employés en CDD d'usage, donc payés à la journée ou à l'heure, en fonction des conventions ou des contrats qui sont signés. Et ensuite, le régime des intermittents, donc, qui est un régime qui est assez important, qui permet à ces artistes ou techniciens, lorsqu'ils sont dans des phases où ils n'ont pas forcément de travail, parce qu'il y a toujours des phases soit où le travail va être intense, ou alors où il l'est moins, ça arrive à tout le monde. Et donc le régime des intermittents du spectacle leur permet un salaire minimum en fonction du quota d'heures travaillées par mois, donc, qui est environ la valeur d'un SMIC par mois. Donc en résumé, donc les métiers du spectacle reposent sur des talents et des compétences exceptionnelles liées entre elles pour donner de beaux spectacles. Donc la prochaine fois que vous assistez à un concert ou à une pièce de théâtre, pensez à toutes ces personnes devant et derrière le rideau qui rendent ce moment possible et magique.
Merci beaucoup Néo pour cette chronique. Toi, est-ce que y a un métier qui t'intéresse particulièrement dans ce que tu viens de nous présenter, dans ce secteur-là ?
Ah, il y en a même plusieurs. J'aimerais être musicien si j'en avais la possibilité. Ou magicien, que je pratique un peu en tant que deuxième activité en parallèle des études. Mais si je pouvais en vivre, ouais, j'en serais très content.
Ouais, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse.
À fond.
Ok. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir partagé un petit bout de ta vie, finalement.
Pas de souci, je suis là pour ça.
Et j'espère que son bâtiment du jour, j'espère que son beau château résistera à tes tours de magie et que tu pourras aller là-bas pour en faire plus tard, Néo, puisqu'on passe à Gabriel et sa revue Archie.
Bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un château. Donc, je vais parler des châteaux de Chambord, que vous connaissez peut-être, qui est un château de la Loire. Alors, pour vous penser un peu à château, vous devez vous imaginer à cheval, revenant d'une campagne militaire au début du XVIe siècle, et aux abords de la Loire, vous allez voir un terrain un peu marécageux avec des forêts et vous allez avoir l'idée d'un château. Et c'est comme ça que François Ier décida de construire le château de Chambord. Donc c'est à son retour victorieux de la bataille de Marignan en 1915, donc c'est une bataille en Italie, qu'il a décidé de construire le château de Chambord. C'était pas pour en faire une résidence, mais c'était vraiment pour montrer un symbole de puissance et de pouvoir. Donc le chantier commença en 1515. Mais en réalité, il ne séjourna que 50 jours dans sa vie, donc ce n'est pas beaucoup, mais c'est un chantier qui a pris quand même pas mal de temps. Il est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc depuis 1981, et le château hébergea au cours des siècles de nombreux hôtes illustres pour les fêtes et les parties de chasse mémorables, et c'est finalement Louis XIV qui va achever les travaux du château, qui prendront bien plus de temps que la durée de vie de François Ier. Le château de Chambord est parmi les plus vastes et les plus majestueux châteaux de la Loire. Donc, il témoigne notamment de la Renaissance française et le symbole de puissance d'un souverain qui était passionné des arts et des lettres. C'est donc bien à la suite de la bataille de Marignan où il va découvrir justement l'architecture italienne, les beautés de l'architecture italienne, qui va décider de faire appel à Léonard de Vinci. Donc, lors de son retour en France, il invite le génie à séjourner dans la cour de France en tant que premier peintre, architecte et ingénieur du roi. Et donc, c'est sous cette influence de conception de projet que le château de Chambord trouve ses comparaisons entre les parties architecturaux adoptées dans le château et les croquis que Léonard de Vinci a réalisés. Le plan centré du donjon et la présence d'un escalier à double révolution, il y a aussi des conduits d'aération, encore un système d'étanchéité des terrasses. Enfin bref, en fait, c'est plein d'indices qui permettent de dire avec certitude que Léonard de Vinci a inspiré la construction du château. Il faut savoir que le château est assez immense. On parle quand même d'un château qui a 426 pièces, avec 83 escaliers et 282 cheminées. Donc c'est vraiment un château qui est très très grand. À l'époque, ils ont eu notamment pas mal de problèmes au niveau du chauffage et de la température. Il faut savoir qu'il y a séjourné très peu longtemps, parce qu'au final, pour accueillir des hôtes, il y avait très peu de salles qui étaient ouvertes. Aujourd'hui, dans le château, on a environ 60 salles qui sont ouvertes au public, parce que c'est quand même hyper immense et hyper dur à chauffer. Et donc sa taille rivalise avec même le château de Versailles, qui est pourtant connu pour être un château assez immense. Donc la composition interne du donjon est assez inédite en France parce que c'est la première fois qu'on va avoir des inspirations italiennes marquées. Ensuite, il faut savoir que l'ornementation des parties hautes du château, donc du toit par exemple, des fenêtres qui se trouvent sur les toitures, sont plutôt par contre du style château fort. Et donc ça s'explique parce qu'en fait, au début du XVe siècle, malgré les progrès réalisés dans le domaine de l'artillerie, bah, en fait, il y avait les châteaux forts, ils n'étaient plus trop utiles en fait. Ils étaient seulement là pour rappeler des symboles de pouvoir par rapport aux guerres. Donc il faut savoir que le donjon de Château de Chambord, avec des tours en angle, une enceinte, des douves, évoque la puissance militaire plutôt de façon allégorique que de façon réelle. Et de plus de 30 ans après la fin de la construction des derniers châteaux forts, ces éléments constituent une véritable citation architecturale d'un autre temps. Aussi, bah, je reviens justement à l'escalier que j'avais expliqué, qui a été inspiré par Léonard de Vinci. Donc c'est un escalier qui est un escalier dit à double révolution. Donc qu'est-ce que ça veut dire à double résolution ? Ça veut dire qu'en fait, il se compose de deux rampes jumelles qui s'enroulent l'une par-dessus l'autre, autour d'un noyau creux. Et donc en fait, cet escalier dit à double révolution, il dessert les différents étages de l'édifice, et il est vraiment placé au centre, donc au cœur du donjon. Et il faut savoir qu'il va permettre d'avoir accédé à la tour la plus haute du château, qui est celle du donjon. Et c'est un peu le clou du spectacle de ce château, car c'est un escalier d'abord qu'il faut savoir qui est très immense, et c'est un escalier qui est assez particulier, parce qu'en fait, on peut le monter de chaque côté sans jamais se rencontrer, en fait. Parce qu'on a un escalier qui va desservir différents étages, et qui permet donc de fluidifier les circulations. À l'époque, on dit qu'il était permettait de faciliter dans l'escalier et éviter les embouteillages dans l'escalier. Mais bon, il a surtout été aussi un symbole de puissance et de pouvoir pour montrer un peu l'importance que pouvait avoir François Ier. Il faut savoir aussi dans le château qu'il y a une symbolique très importante qui est celle de la salamandre qui se retrouve pas mal dans le château. Et donc, François Ier l'avait choisi comme emblème parce que la croyance populaire lui prêtait le pouvoir de résister aux flammes. Donc, c'était un animal extraordinaire qui méritait une couronne. Et la devise, c'était « Je me nourris du bon feu et j'éteins le mauvais ». Et donc c'était un peu le symbole de François Ier à cette époque, qui explique pourquoi on le retrouve partout dans le château. Il y avait aussi des jardins à la française, mais ils ont été rénovés très très tard. On ne sait qu'au niveau de 2017 qu'on a pu retrouver les jardins d'époque, qui étaient des jardins avec 600 arbres, 800 arbustes, 200 rosiers, 15 250 plantes. Donc c'était assez immense comme terrain. Et donc on se retrouve avec un terrain de 18 000 mètres carrés environ de jardin. Et ça a été, après 16 ans d'études, on a pu, en étudiant les anciens plans, etc., retrouver les jardins d'époque, car il faut savoir que les jardins ont été repris après par Louis XIV, comme je vous ai dit, qui a fini les travaux, qui a fini le château finalement. Et même si Léonard de Vinci est considéré comme l'inspirateur du château, en fait, ça ne fait pas de lui un architecte. L'architecte du château, on ne le connaît pas. En fait, l'identité de son architecte n'a jamais été encore levée. C'est un mystère qui s'explique par l'absence presque totale d'archives concernant le chantier royal. Celle-ci ayant été dispersée ou détruite à la fin du XVIIIe siècle. Aucun plan, aucun texte contemporain de la construction ne cite précisément le nom de celui qui imagina puis traça les traits de l'un des édifices les plus remarquables de la Renaissance. Donc c'est assez mystérieux finalement. Mais je vais vous faire un petit quiz à la fin pour voir si vous avez un peu retrouvé les différentes informations que j'ai mis par-ci par-là dans le château. Donc, première question. En quelle année le château de Chambord a-t-il été construit ?
Il a commencé ?
Ouais.
C'était au XVIe siècle ?
Ouais, XVIe siècle, exactement. Est-ce que vous avez une date ?
Bataille de Marignan, 1515.
Exactement, bataille de Marignan, voilà. Très bien.
Voilà, les cours d'histoire du collège.
Ensuite, quel est le nom de l'escalier particulier qu'on trouve à Chambord ?
Double pénétration. Wesh. Double. Double. Oh non, wesh. C'est double révolution, voilà.
Exactement, double révolution. Presque. Petit lapsus de la part de Marius.
Je suis trop gêné.
Ensuite, par quel architecte, du coup, le château a-t-il été conçu ?
On sait pas.
On sait pas, et oui, c'était la question piège. On ne sait pas, on ne connaît pas le nom de l'architecte. Donc merci de m'avoir écouté pour ma deuxième chronique. Et donc, je vous souhaite. Écoutez les magnifiques chroniques de mes camarades.
Merci beaucoup, Gabriel. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a cruellement donné envie de devenir châtelaine. Quoique, en fait, après avoir t'écouté et après réflexion, les 426 pièces à chauffer me terrorisent. Et les 18 000 hectares, finalement, pour passer la tondeuse, c'est impossible. Enfin, je veux dire,
Oui, non, il y avait beaucoup de gens qui employaient à l'époque.
Ah ouais, mais c'est infaisable.
Il faut avoir les moyens quand même.
Ah bah c'est clair, et puis même en ayant les moyens, je pense que les 426 pièces, ils devaient cailler de fou. Hein. Ouais. C'était vraiment, t'avais intérêt à vivre, même pas avec ton manteau, avec ta bouillotte portative partout. Oh là là, moi ça me terrorise. Merci beaucoup. Et on va revenir un peu dans le temps présent, ça y est, on arrive... dans notre bâtiment de la semaine dernière avec Chloé et ses infos décalées. Chloé, tu nous parles de quoi cette semaine ?
Eh bien, écoutez, aujourd'hui, ma revue sera sur du cinéma. Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette chronique sur la culture. Aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, je vais nous plonger dans le monde du cinéma en vous parlant d'un film peu connu du grand public et qui a pourtant remporté le prix de la meilleure comédie musicale, du meilleur film étranger, de la meilleure chanson et du meilleur second rôle féminin au Golden Globe. Ce film dont je vais vous parler, c'est la comédie musicale Emilia Pérez. Vous pouvez y retrouver des actrices formidables, telles que Carla Sofia Gascon, une actrice espagnole, Zoé Saldana, une actrice américano-dominicaine que nous avons déjà pu voir dans les Avatars, et la célèbre actrice américaine Selena Gomez. Mais alors, de quoi parle Emilia Pérez ? Eh bien, c'est l'histoire d'un chef de cartel mexicain nommé Manitas, qui veut changer de vie et de genre. Pour cela, il fait appel à Rita, une avocate surqualifiée et surexploitée, qui use de ses talents dans un cabinet préférant blanchir des criminels que servir la justice. Alors comment Manitas et Rita vont s'en sortir pour cacher tout cela au monde entier et pour toujours ? Vous le découvrirez en regardant cette comédie musicale qui aborde donc des sujets importants tels que la transidentité et les narcotrafiquants au Mexique. Ce chef-d'œuvre, noté 4,1 étoiles par la presse et 4,2 étoiles par les spectateurs sur Allociné, réalisé par Jacques Audiard et sorti en août 2024, dure 2h10 et vous pouvez retrouver le DVD en magasin depuis fin décembre 2024. Pour finir, je tenais tout de même à préciser que le réalisateur Jacques Audiard est le fils de Michel Audiard, réalisateur français célèbre pour le film Les Tontons Flingueurs. De plus, la musique est signée Camille, auteure-compositrice française à qui on doit certaines musiques de Ratatouille et du Petit Prince. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve la prochaine fois pour une chronique sur le théâtre.
Merci beaucoup Chloé. Y a eu quelques polémiques aussi autour de ce film-là, non ? Et de ses musiques notamment.
Alors oui, parce qu'apparemment, ce film n'a pas plu, surtout aux Mexicains, qui disait que le film était trop cliché, qu'il ne dénonçait pas assez la violence des cartels mexicains, etc.
Ok, et toi, t'en as pensé quoi personnellement du film ?
Alors moi, il m'a vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Alors, n'étant pas mexicaine, je n'ai pas mon avis sur les polémiques. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié le film, même si vous allez le voir, vous verrez que la fin est un peu brute. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Chloé. Et puisque un peu de musique adoucit les mœurs, on va nous mettre une petite virgule. Et je propose qu'on laisse Marius aux platines et qu'on écoute un peu ce qu'il a à nous raconter aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, c'est très simple. Je vais vous parler d'un nouveau rappeur, donc un rappeur émergent qui vient juste d'arriver sur SoundCloud. Donc il n'est pas encore sur les réseaux Spotify, donc c'est exactement le moment de se brancher en fait. Donc le rappeur, il s'appelle comment ? PM7. Le nom, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire parce que ça reste un mystère et ça restera sûrement un mystère pour toujours. Et il vient de sortir un EP qui s'appelle Destinée, avec un feat avec un pote à lui qui vient de Poitiers même, qui s'appelle Quattro, qui a aussi sorti son EP, mais je vous en parlerai lors de la prochaine émission. Et bah, je vous propose de, sans plus attendre, passer au morceau encore dans l'EP Destinée.
Encore une autre bouteille, encore bloqué sur la même note de tel. Hey, toujours la clope au bec, hey, toujours la coffe au bec. Je la vois, elle veut sexter. Hey, je crois qu'elle est excitée. Elle s'en fait des belles idées, mais jamais j'ai hésité. Encore une autre bouteille, encore bloqué sur la même note de tel. Hey, toujours la clope au bec, hey, toujours la coffe au bec.
je la vois, elle veut s'exciter. Eh, je crois qu'elle est excitée. Elle s'en fait des belles idées, mais jamais j'ai hésité. M7, c'est quand le KAH, avant faut que j'arrête la queue. J'pire sans fumer de AAH, les yeux bridés comme un AAH. Je veux que la monnaie le paradis. Si j'perce pas, j'irai au paradis. Dans ma vie, y'a la nuit, y'a la pluie, j'ai le parapluie. Car là, j'crois c'est l'averse. Tout de suite, ça me donne une aversion. Pourquoi tu changes de version? Pourquoi avant c'était l'inverse? T'inquiète, je dirai à personne, sale cœur. Toi, tu penses qu'à ta personne, laisse-moi fumer sur mon perce. Car y'a que lui qui me berce. Encore une autre bouteille, encore bloqué sur la même note de tel. Hey, toujours la clope au bec, hey, toujours la camphobique. Hey, je la vois, elle veut s'exciter. Hey, je crois qu'elle est excitée. Elle s'en fait des belles idées, mais jamais j'ai hésité. Encore une autre bouteille, encore bloqué sur la même note de tel. Hey, toujours la clope au bec, hey, toujours la camphobique. Hey, je la vois, elle veut s'exciter. Hey, je crois qu'elle est excitée. Elle s'en fait des belles idées, mais jamais j'ai hésité. Hésité. Encore une autre bouteille, encore bloquée sur la même note de tel. Hey, toujours la clope au bec, hey, toujours la confoubecté. Je la vois, elle veut s'exciter. Hey, je crois qu'elle est excitée. Elle s'en fait des belles idées, mais jamais j'ai hésité.
Merci beaucoup, Marius, de nous avoir partagé ça.
Eh bien, de rien. N'hésitez pas à aller streamer. Voilà. Voilà.
Merci beaucoup. Vous connaissiez, vous, cet artiste, les gars?
Nouvelle artiste PM7.
Nouvelle artiste, ouais. PM7, ok. Donc, on peut le retrouver sur quoi?
Du coup, on peut le retrouver sur, SoundCloud. On peut le retrouver sur SoundCloud. Malheureusement, il n'est pas encore disponible sur Spotify. Donc, voilà, vous allez sur SoundCloud. Il me semble que vous tapez PM7. Et normalement, c'est la première recherche qui va s'activer, enfin, qui va être disponible.
Ok, et eh bien merci beaucoup, voilà.
Rappeler aussi que son EP est très polyvalent, donc si vous n'avez pas trop kiffé ce son, peut-être qu'il y en aura d'autres que vous allez préférer. Il y a beaucoup, beaucoup de diversité.
Merci voilà. Beaucoup de nous rappeler ça, de nous avoir partagé ça ce soir, Marius.
Il n'y a pas de souci.
Et on passe à la virgule. J'ai baissé le cartoucheur. On passe à la virgule. Pour cette prochaine chronique, chers auditeurs, chères auditrices, je vous propose de lever les yeux vers le ciel et de nous plonger dans le monde de Leandro. Enfin, de nous cracher dans le monde de Leandro, apparemment.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Leandro et bienvenue dans Les Récits du Cosmos, une chronique sur l'astronomie et tout ce qui en entoure. Ce soir, nous abordons un sujet spécial, une pluie de météorites qui n'en est pas une. Effectivement, plusieurs vidéos tournent sur les réseaux montrant des météorites passant au-dessus de nos têtes. Mais en réalité, ce sont les débris de la dernière fusée envoyée par SpaceX, la fusée Starship 7. Alors, qu'est-ce que Starship et SpaceX ? Starship est le nom donné aux fusées lancées par SpaceX conçues pour les missions lunaires et martiennes. Et pour SpaceX, ou Space Exploration Technologies Corporation, est une entreprise aérospatiale américaine fondée en 2002 par Elon Musk. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication et le lancement de fusées et de vaisseaux spatiaux. SpaceX a pour objectif principal de réduire les coûts des voyages spatiaux pour permettre la colonisation de Mars. Cette entreprise est connue notamment pour les fusées Falcon 1 et 9, respectivement connues pour avoir été le premier lanceur orbital à atteindre l'orbite en 2008 pour Falcon 1 et pour Falcon 9 pour sa capacité à être réutilisée, réduisant ainsi les coûts de lancement. Dragon, une capsule de transport de cargaison et d'équipage vers la Station Spatiale Internationale, l'ISS. SpaceX est également connu pour Starlink, un projet visant à déployer une constellation de satellites pour fournir un accès à Internet à haut débit partout dans le monde. Mais aussi, comme je l'ai dit plus tôt, Starship, qui est le sujet de la chronique de ce soir. Le septième vol d'essai du Starship, bien qu'il ne soit pas déroulé comme nous l'aurions tous souhaité, représente en soi un succès pour SpaceX. Lors de ce tir, après un décollage sans faute et une séparation réussie des deux étages, ainsi qu'une séparation en vol du ring, le booster Super Heavy, ou l'étage principal, a entamé une descente contrôlée vers le pas de tir où il a été récupéré. Cependant, à une altitude de 146 km, le Starship a explosé en raison d'une anomalie. Comme l'a expliqué Elon Musk sur X, suggérant que l'explosion était probablement due à une fuite d'oxygène ou de méthane. malgré la perte de l'étage supérieur, plusieurs aspects positifs peuvent être mis en avant. En premier lieu, SpaceX a réussi pour la deuxième fois à récupérer le booster, une prouesse n'ayant été réalisée qu'une seule fois auparavant, lors de Starship 5. Ces exploits témoignent des avancées techniques significatives et mettent en évidence la complexité de cette manœuvre. Si les explications fournies par Elon Musk s'avèrent exactes, cela exclut un défaut de conception qui aurait nécessité une immobilisation prolongée du véhicule. Il est important de souligner que le véhicule utilisé lors de ce vol était une version améliorée par rapport aux 6 précédents Starship. De plus, la méthode de développement de SpaceX, qui mise sur l'expérimentation et l'apprentissage à la fois par les succès et les échecs en vol, contraste fortement avec l'approche traditionnelle en Europe, notamment avec le système Ariane. Tandis qu'Ariane Group privilégie la qualification des lanceurs à Ariane au sol dans leur premier vol, SpaceX opte pour des essais pratiques afin d'affiner ses technologies et d'accélérer les développements de ses lanceurs, même si cela entraîne parfois des échecs en vol. Cette stratégie d'innovation rapide et flexible permet à SpaceX d'acquérir des connaissances précieuses à chaque lancement et d'améliorer leur futur lancement. Merci de m'avoir écouté, c'était Leandro, et à une prochaine pour plus de récits du cosmos.
Merci beaucoup Leandro pour cette jolie chronique. Enfin, jolie chronique, je ne sais point, parce que finalement, moi ça me terrifie un peu.
En soi,
mais,
c'est
qu'est-ce
à
que
la...
t'en penses toi ouais, vas-y,
c'est dis-moi. À la fois positif pour l'avancée technologique des fusées du côté de SpaceX, même si c'est une entreprise du coup privée. Mm-hmm. Mais ça permet aussi de faire de grosses avancées scientifiques dans l'aérospatiale, dans toute la découverte de ce qu'on ne connaît pas. Et à la fois, on pourrait penser que c'est négatif parce que bon, il y a du coup des débris qui sont arrivés sur Terre. Enfin, niveau pollution, ça, c'est pas ouf.
Donc, ouais. Ouais, pour toi, du coup, on peut en retenir les deux à la fois tout de même.
C'est ça.
Il y a du positif et du négatif, très bien.
Après, mais... c'était un beau spectacle à voir en soi.
Oui, ça a dû faire un joli feu d'artifice, on peut voir ça comme
ça. Bah, une pluie d'étoiles filantes en plein jour, des boules.
C'est stylé.
Oui.
C'est stylé. Finalement, ouais. Est-ce que c'est pas toujours dans le thème de ta chronique de la semaine dernière? On reste un peu dans le même thème.
Ah si, on reste dans le même thème.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour cette chronique, Leandro.
Yeah.
Et c'est sur cela qu'on se quitte, chers auditeurs, chères auditrices. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette deuxième émission de LP de nuit. N'hésitez toujours pas à nous retrouver sur le site et sur la page YouTube de Delta FM. Merci à toi, Néo.
Ben, merci à vous.
Merci Gabriel.
De rien.
Merci Chloé.
Avec plaisir.
Merci Marius.
Merci beaucoup.
Et enfin, merci Leandro.
Il n'y a pas de quoi.
Et merci bien sûr à toutes et tous, très chers auditeurs et très chères auditrices. On se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Delta FM 90.2. C'était Lola pour LP de nuit.